jour, de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous immerger dans une autre réalité, dans le monde virtuel et déjà bien concret des avatars. Pourquoi s'incarner dans un avatar ? Et pas seulement pour jouer aux jeux vidéo ou pour faire du cinéma, mais aussi pour développer son empathie, sa créativité ou plus fort encore se rééduquer suite à un accident. Mais aussi pour mieux comprendre en miroir notre propre fonctionnement humain. Autour de la question jusqu'où nous entraînerons nos avatars, pour le meilleur on l'espère et pour éviter le pire, nous sommes en direct avec le spécialiste internationalement reconnu de la réalité virtuelle, Anatole Écuyer, directeur de recherche chez INRIA, et avec Rebecca Fribourg qui consacre ses recherches aux avatars personnels et aux effets de ces technologies immersives. Saviez-vous par exemple que le fait de s'incarner en un génie comme Léonard de Vinci par exemple booste notre créativité ? Que des patients sortant du coma apprennent à remarcher bien plus rapidement grâce à leur avatar ? Expérience immersive au pluriel à partager ensemble en face à face avec nos avatars. Bienvenue de l'autre côté du miroir, dans une autre réalité virtuelle, mais pas que.
Le terme avatar provient du sanskrit avatara qui signifie descente. Donc à l'origine, il est utilisé par des divinités, en particulier Vishnu, pour descendre sur Terre, pour remettre de l'ordre dans la communauté humaine, si je peux dire.
Je n'ai pas l'impression qu'on va recruter un avatar pour un poste à responsabilité, simplement à travers un chat et une représentation graphique.
Nous ne sommes pas des divinités et on va utiliser les avatars pour s'incarner dans un monde virtuel.
Les joueurs qui ont incarné un avatar ressemblant à Albert Einstein se sont montrés plus performants dans des tâches cognitives.
Jake, est-ce que vous m'entendez ? Jake, vous m'entendez ?
Bon réflexe pupillaire.
Réponse auriculaire normale. Ça va, Jack ?
Salut. Bienvenue dans votre nouveau corps.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne ? Tu as changé de coiffure ? Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Mais il y a beaucoup trop d'informations pour décoder la matrice. On finit par s'y habituer et en fait, je vois même plus le code.
Mix entre science et science-fiction réalisé par Thibaut Baduel ou son avatar, qui sait. Mais c'est bien de science dont nous allons parler autour de la question des avatars sur lesquels vous travaillez tous les deux. Bonjour Rebecca Fribourg.
Bonjour.
Bonjour Anatole Écuyer.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous venez respectivement de Nantes et puis de Rennes hein, pour être en studio avec nous. Partagez vos recherches, vos interrogations, vos expériences étonnantes, on va le voir, et vos découvertes. Petite question peut-être de vocabulaire pour commencer. D'abord, Anatole Écuyer, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage « Comprendre le métavers, les technologies immersives et leurs effets sur votre cerveau » aux éditions Alpha Science. Alors, le métavers et la réalité virtuelle, c'est à peu près la même chose ou...
Alors, la réalité virtuelle, c'est à la fois un domaine scientifique, c'est également un ensemble de technologies, et puis c'est une expérience psychologique, c'est un petit peu tout ça. On va se référer, nous, dans notre domaine, beaucoup aux technologies de réalité virtuelle. Donc, on voit bien maintenant dans les magasins d'électroménager, on peut
les casques,
acheter, ces fameux visio-casques de réalité virtuelle qu'on va mettre sur sa tête, un peu comme les lunettes de ski ou un masque de ski, et qui vont nous plonger dans une réalité alternative, un monde virtuel 3D qui est calculé et restitué en temps réel par un ordinateur. Donc ça, ce sont les technologies de réalité virtuelle. Mmh. Et puis est apparu il y a quelques années, d'ailleurs juste au sortir de la crise Covid, le terme « métavers oui. » qui a été introduit notamment par Zuckerberg, le PDG de Feu Facebook, qui a transformé sa société en Meta pour métavers. Le terme n'était pas très utilisé dans la communauté scientifique ou dans la communauté médiatique ou dans le grand public. Et il est devenu du jour au lendemain comme ça, sous le feu des projecteurs, c'est devenu un terme qui s'est répandu pour désigner en fait un sous-ensemble d'applications de ces technologies-là, qui peuvent servir à plein de choses. Mais là, dans la tête de Zuckerberg, si on peut espérer entrer dans la tête de Zuckerberg, on peut imaginer que là, ce qu'il a en tête, c'est donc un monde virtuel massivement partagé, donc par plein d'utilisateurs, qui vont se connecter à une simulation d'un monde virtuel partagé par le biais d'un casque de réalité virtuelle.
Et qui seront dans le même monde virtuel, c'est ça, hein ?
Voilà, qui vont partager cette expérience à beaucoup d'utilisateurs, on va dire. Et dans cet univers virtuel, ils vont être représentés justement par un avatar, donc une représentation numérique digitale, un être qui va les représenter dans ce monde virtuel. Et grâce à cet avatar, ils vont ensuite pouvoir réaliser un certain nombre d'activités humaines, se rencontrer, discuter, faire du shopping, mais également se former, s'éduquer, faire du sport, se soigner. On va y venir peut-être un petit peu plus tard.
On va y venir absolument, parce que ces avatars et comment s'incarner dans un avatar dans cette réalité virtuelle et dans le métavers, c'est là où les avatars entrent en jeu. Et ça, c'est votre pratique, si j'ose dire. Rebecca Fribourg, vous êtes maîtresse de conférences à l'École centrale de Nantes, chercheuse au laboratoire LS2N, où vous travaillez précisément sur cette question de l'incarnation. C'est pas la réincarnation, même si avatar est un mot sanscrit, mais l'incarnation, comment est-ce qu'on s'incarne dans un avatar et comment est-ce que vous étudiez ça, Rebecca ?
Alors, l'incarnation en soi, on en a discuté encore un petit peu aujourd'hui avec Anatole, ça se fait de manière assez naturelle, c'est même assez troublant finalement quand on met un casque de réalité virtuelle sur les yeux et qu'on a un avatar virtuel qui nous représente, c'est assez troublant à quel point on va finalement s'incarner assez vite lorsque c'est bien fait, avec des retours sensoriels, je vais venir un petit peu après, cohérents, on peut avoir l'impression d'être, de posséder ce corps virtuel et d'être du coup représenté par ce corps, de se l'approprier. Donc en général, ça fonctionne grâce à des retours sensoriels, donc ne serait-ce que la vision, donc une cohérence visio-moteur. Donc l'avatar va bouger en même temps que nos mouvements.
En même temps que nous, c'est ça. Donc il faut qu'on ait des capteurs sur le corps. Enfin, la personne réelle doit avoir des capteurs sur le corps pour transmettre ses mouvements à l'avatar, c'est
exactement,
ça,
hein. Oui. Des choses plus ou moins invasives. On peut avoir juste utiliser la position des mains, des pieds, mais on peut aussi avoir des costumes entiers, donc avec plein de capteurs sur tout le corps pour avoir plus de précision. Et plus donc on va avoir de capteurs, plus ça va être précis, plus on va se sentir incarné dans l'avatar. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur l'incarnation. Et le sujet de ma recherche, c'est justement d'étudier ces facteurs, d'essayer de comprendre tout de même, parce que même si on s'incarne bien, il y a de la variation. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va bien s'incarner dans son avatar? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à la fois donc, dans le design de l'avatar, quelle représentation on va choisir, quelle va être son apparence, comment le contrôler, quel point de vue on va avoir envers cet avatar en première personne, comme notre corps, ou plus en troisième personne, comme dans le jeu vidéo. Et donc comment ces facteurs vont contribuer à une bonne incarnation. Et ça se mesure. Donc dans le cadre d'expériences, on réalise des expériences utilisateurs dans un laboratoire où on fait venir des cobayes, des participants, donc qui viennent tester des configurations d'avatars, des expériences assez précises. Et ensuite, on étudie leurs réponses à des questionnaires. On a des mesures objectives aussi pour...
On va y venir, hein, parce qu'on a notre reporter Stéphane Duguay qui est parti à Laval et qui lui-même a testé la réalité virtuelle, voir si il devenait plus génial une fois que son avatar était Léonard de Vinci. On va voir ce qu'il en est dans quelques instants. Et ça va être la question du comment. Mais au fond, pourquoi ? On va y revenir aussi, Anatole Écu, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'avatars en réalité virtuelle ? Finalement, il y a plein d'applications et ce n'est pas du tout que les jeux vidéo, même si c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, ou le cinéma.
Alors, les applications, oui, elles sont assez variées. Elles correspondent aussi au spectre très large des applications de la des technologies immersives et de la réalité virtuelle. Et puis, pourquoi est-ce qu'on va utiliser des avatars ? Aussi parce que si vous n'en avez pas et que vous enfilez un casque de réalité virtuelle et que vous baissez la tête... et que vous regardez au niveau de votre corps, à ce moment-là, vous êtes transformé dans un être invisible, un être évanescent. Vous ne savez pas très bien si vous êtes encore un humain,
vous n'existez plus, vous
flottez. Voilà, vous êtes un être flottant, quoi. Et donc, l'avatar va servir à vous représenter et à signaler votre présence dans le monde virtuel. Maintenant, l'avatar en tant que tel, technologiquement, scientifiquement, technologiquement, il pose déjà un certain nombre de problèmes. La représentation de ce corps, elle pose des défis technologiques qui sont extrêmement complexes.
C'est très complexe, un corps humain, enfin un corps vivant en fait, c'est extrêmement complexe. C'est
voilà,
ça,
et pour rendre toutes les facettes et tout ce qui fait le sel et le réalisme d'un corps, c'est encore aujourd'hui difficile de l'atteindre, et ça anime une communauté très très vaste de chercheurs de plein de disciplines différentes.
Autour de la question jusqu'où nous entraînerons nos avatars, ils vous servent aussi, on commence à le comprendre, justement à mieux comprendre notre propre perception humaine, à la manière dont notre cerveau fonctionne, s'identifie ou pas à un sujet, très rapidement à un avatar, vous l'avez dit, Rebecca. Je propose tout de suite d'écouter justement à ce sujet l'éclairage d'un neurologue, Paolo Bartolomeo. Il est directeur de recherche à l'INSERM. Il était récemment notre invité autour de son ouvrage « Dernière nouvelle du cerveau » et nous explique justement les mécanismes du cérébraux qui font qu'on se croit très rapidement, très vite dans son avatar. On s'incarne vite dans son avatar, on l'écoute.
Dans le cerveau, il y a des circuits, peut-être surtout dans l'hémisphère droit, qui sont importants pour nous mettre dans notre corps. Et on peut déjouer d'une certaine façon ces circuits en montrant par exemple un avatar qui bouge exactement comme nous bougeons, ou en touchant, en montrant qu'on touche un avatar sur le dos par exemple, et en touchant le sujet lui-même sur le dos. Et à ce moment-là, effectivement, on s'identifie, nos circuits cérébraux nous identifient avec l'avatar, comme si nous étions l'avatar. Donc si on donne un coup à l'avatar, on ne sent pas des douleurs directement, mais c'est très désagréable.
On peut donc leurrer notre cerveau, hein, nous explique le neurologue et clinicien et chercheur à l'INSERM Paolo Bartolomeo, Anatole Lécuyer. Mais aussi, quand on fait mal à l'avatar, ça nous fait mal et c'est un moyen de tester si l'avatar fonctionne bien.
Oui, c'est vrai que la réalité virtuelle est un outil, et les stimulations multisensorielles, comme le disait Rebecca tout à l'heure, c'est un outil extrêmement puissant pour créer ces illusions. D'un corps virtuel qui devient progressivement le nôtre. Et les illusions sont très puissantes, on peut aller assez loin, et le cerveau va être berné si on propose quelque chose de très cohérent. Il faut qu'on ait une cohérence dans cette situation pourtant exceptionnelle ou extraordinaire, et à ce moment-là, le cerveau va essayer de recomposer une image qui paraît cohérente et qui va créer cette illusion.
Et vous avez un exemple,
je peux prendre un exemple assez étonnant qu'on a... mis en place dans notre laboratoire il y a quelques années, qui consistait à essayer de voir jusqu'où on peut aller dans l'appropriation de corps virtuels, d'avatars qui sont très différents de nous pourtant, et comment le cerveau peut être abusé dans cette situation-là. Et on a essayé de créer une situation où vous allez vous approprier un corps dysmorphique, c'est-à-dire qu'il y a une morphologie différente de la vôtre. Mmh. Donc un corps, en l'occurrence, qui possède un membre en plus, un sixième doigt.
Ah.
Au niveau de votre main droite, vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous regardez votre main, puis là, il y a une main virtuelle très réaliste.
Et il y a six doigts.
Voilà, et en fait, alors vous ne repérez pas tout de suite le truc, si bien même qu'il faut parfois même plusieurs minutes avant que les gens réalisent qu'en fait, il y a un truc qui cloche. Ils voient qu'il y a un truc bizarre dans la main. En fait, au bout de quelques temps, ils ont remarqué qu'il y avait ce sixième doigt en plus.
Et le cerveau arrive à le faire bouger, ce sixième doigt.
Pour créer cette illusion... Mmh. On va utiliser plusieurs techniques pour tricher, en fait, parce qu'évidemment, vous n'avez pas de vrai sixième doigt. Donc, pour l'animer, ce sixième doigt, en fait, on va utiliser les mouvements des deux doigts qui sont autour de ce doigt pour le faire bouger.
Ouais.
Et puis, plus fort, on va essayer de vous le faire ressentir physiquement. Et c'est là où on va vraiment créer une illusion très puissante. On va demander de poser la main sur la table devant vous. Et puis, il y a un expérimentateur avec un pinceau qui va venir caresser chacun de vos doigts successivement. Dans la scène virtuelle, vous voyez le pinceau virtuel qui passe sur les doigts. Et puis, quand il s'approche de votre sixième doigt et qu'il passe sur votre sixième doigt, eh bien là, on va tricher. L'opérateur, en réalité, va brosser, caresser votre annulaire, mais de manière très synchronisée.
Ah, et du coup, le cerveau pense que c'est le sixième.
Enfin, à ce moment-là, c'est très étonnant ce qui se passe. Ouais. Il faut recomposer une image cohérente. Mm-hmm. Et là, votre cerveau va en déduire qu'effectivement, ce sixième doigt existe, qu'il est innervé. Vous ressentez une sensation tactile. Vous ressentez cette sensation tactile de la caresse dans le sixième doigt virtuel sur lequel le pinceau virtuel est en train de passer. Et très rapidement, très très rapidement, vous incorporez ce sixième doigt physiquement, tactilement, et vous vous mettez à ressentir ce sixième doigt tellement puissamment que si on revient à une main virtuelle à cinq doigts, pour certains, c'est vécu comme un moment très douloureux. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un membre à ce moment-là, ils sont presque amputés de ce sixième doigt.
C'est complètement fou la manière dont on peut leurrer le cerveau. Je me tourne vers vous, Rebecca, parce que vous avez aussi de sacrées expériences d'incarnation dans des êtres. Alors là, c'est carrément pas dysmorphique, mais Dans d'autres êtres vivants que les humains, c'est ça, hein?
Oui, exactement. Oui, on a voulu pousser la chose encore plus loin. Mais c'est quand même sur le registre des avatars dysmorphiques. On s'est intéressé au fait d'incarner donc, des utilisateurs dans un corps animal, un corps de chien, entre autres. Alors, à la base, ce projet, c'était quelque chose qui était fait en collaboration avec le Trinity College Dublin, avec Rachel McDonnell, une chercheuse là-bas, qui travaillait sur l'utilisation des avatars dans le milieu du cinéma. Donc, comment le fait d'incarner des acteurs dans les créatures qu'ils jouent, donc normalement avec des capteurs sur le visage, derrière un fond vert, des créatures qu'ils animent, comment leur permettre de s'incarner dans cette créature-là en temps réel lorsqu'ils jouent pour améliorer leur performance. Il y avait vraiment cette volonté d'aller vers ces avatars aux formes différentes, donc non anthropomorphiques. Et on était aussi en collaboration avec Bath, l'université de Bath à cette époque, qui travaillait beaucoup avec des modèles de chiens. Et en mixant un peu tout ça, on s'est intéressé donc à ce cas précis de l'incarnation de chiens et comment on pouvait aider le sentiment d'incarnation envers ce corps qui est du coup, là pour le coup, très différent d'un corps humain. Spatialement, on n'a pas du tout la même position, il y a plein d'aspects différents,
oui,
la fourrure.
Bien sûr, on est à quatre pattes.
Voilà. Et donc il y a cette fourrure, et c'est cette fourrure qui nous a intéressés, parce qu'on s'est beaucoup intéressé au son, à ce moment-là, au retour sonore.
Ah, parce que pour incarner, oui, il faut les sensations, et donc c'est toutes nos perceptions, visuelles, auditives, olfactives.
C'est ça. Et donc Anatole a parlé donc, notamment du tactile, du toucher, donc, qui est très utilisé, c'est vraiment très puissant. Et on a voulu, nous, creuser un peu la question du son, parce que notre corps, quand on touche notre corps, on fait du son, mais c'est pas forcément quelque chose qui a trop été exploré en retour sensoriel pour l'incarnation. Donc on s'est demandé, tiens, est-ce que dans ce cas précis, donc, pour faire ressentir la fourrure, on pourrait utiliser le retour sonore. Donc, on a fait des captations sonores en brossant donc, des tapis de fausses fourrures. Alors, c'est pas moi personnellement qui l'ai fait. Et ensuite, on l'a donc représenté dans la scène donc, de manière spatialisée. Donc, on est incarné dans un chien et le son provient d'une brosse qui brosse notre corps de chien. On est donc dans le chien en première personne. Et l'idée, c'est de voir comment ce son d'une brosse sur notre fourrure qui se déplace peut donner l'impression donc, d'être incarné dans le chien en le combinant aussi avec du tactile.
Ah, c'est ça, il faut le combiner avec du tactile. Oui. En fait, si on fait juste entendre le son de la brosse qui passe sur notre dos de chien, ça ne suffit pas. Faut
ça ne suffit pas. Touche, c'était une hypothèse qu'on espérait vérifier. Ça n'a pas été le cas. Il y a plusieurs limitations possibles à cela, mais en tout cas, dans notre cas, il fallait que ce soit combiné à du tactile. On aimerait en tout cas poursuivre, parce que l'idée de se baser uniquement sur le son, c'est plus écologique, ce serait beaucoup plus facile
à mettre en place. Nous, à la radio, ça nous plaît. Vous nous avez envoyé quelques sons de brosse sur le poil, mais ça ne suffisait pas. Par contre, chère Rebecca, autour de la question jusqu'où nous entraînerons nos avatars, vous, et avant de retrouver un reportage in situ de notre reporter en pleine réalité virtuelle et effet Proteus, on verra ce que c'est, mais juste après avoir écouté votre choix musical, Rebecca Fribourg, vous nous avez fait découvrir une artiste néerlando-iranienne, Sveta Liza, une artiste mutante qui aime les métamorphoses, qui s'incarne dans des alter-ego virtuels, qui joue avec des robots et même avec une intelligence artificielle musicienne. Quand Sveta Liza chante Humans, et oui, Humans, ça donne ça sur RFI. Thank you. Human. Sur RFI, c'est Svedaliza qui le chante, artiste néerlando-iranienne qui joue de toutes les réalités grâce à ses avatars, alter-ego virtuels. Merci pour ce choix aussi musical qu'informatique, Rebecca Fribourg. Autour de la question jusqu'où nous entraînerons nos avatars, vous concentrez vos recherches sur la manière dont on s'incarne ou pas dans un avatar, dans la réalité virtuelle, dont vous êtes, réalité virtuelle, un des plus éminents spécialistes internationaux, Anatole Lécuyer, en tant que directeur de recherche de l'équipe hybride à l'INRIA. Vous vous êtes associé avec l'Institut des Arts et Métiers de Laval pour expérimenter l'effet Proteus. On va y revenir. Hein. Vous avez démontré qu'en incarnant un personnage stéréotypé du type génie, par exemple, comme Léonard de Vinci, cela améliore notre créativité. Une expérience tentée in situ par notre reporter en réalité virtuelle, Stéphane Duguay, qui n'a peur de rien et qui est parti tester le casque de réalité virtuelle et l'expérience Léonard de Vinci avec le chercheur Geoffrey Goris, co-auteur de l'étude que vous avez publiée, Anatole, et maître de conférence à l'Institut des Arts et Métiers de Laval. Bienvenue dans la salle d'expérimentation en réalité virtuelle. Juste le temps de laisser Stéphane s'équiper.
On va s'approcher du matériel. Si je peux le décrire un peu trivialement, il y a deux manettes bleues, un casque bleu lui aussi avec une antenne qui coiffe le casque. Il y a deux capteurs noirs qui se mettent sur les pieds et le même capteur que vous mettez autour du ventre.
Oui, alors c'est ça. En fait, on appelle ça, nous, donc le nom du matériel, ce sont des Vive Trackers. On est sur un dispositif qui reste relativement simple, mais quand même assez peu répandu au niveau du grand public. Il y a un peu plus qu'un casque et deux manettes, comme on le voit souvent maintenant sur les casques qui sont diffusés plus largement. On a effectivement ce casque et ces deux manettes qui sont tenues dans les mains, qui nous permettent d'interagir avec l'environnement. Mais on va aussi avoir à notre disposition plusieurs trackers qui permettent en fait de connaître la position des différents membres du participant, donc notamment les jambes et le bassin. Ce qui nous permet, avec tous ces points de capture, donc le casque, les deux contrôleurs et les trois points qu'on va associer donc à chacun des pieds et à la taille du participant, de pouvoir contrôler en temps réel les mouvements du personnage virtuel, donc de substituer notre apparence et de synchroniser nos mouvements. On appelle ça de la synchronisation visio-motrice. Et on remplace donc complètement le corps du participant grâce à cet appareillage.
Très bien, bah on peut l'enfiler ou lancer le jeu.
On peut commencer, oui.
Nous allons maintenant vous demander d'effectuer des mouvements simples. Commencez par bouger vos bras.
Alors du coup, là, j'ai le casque de réalité virtuelle sur la tête.
Déplacez-vous dans l'atelier et regardez-vous dans le miroir.
Je vois une fenêtre qui éclaire avec la lumière du soleil. On est vraiment ébloui. Le mur est en briques rouges. Au plafond, il y a des poutres en bois. Et dans cet atelier de Léonard de Vinci, on a un parquet, on a un établi avec un globe dessus. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on oublie qu'on est à l'Institut des Arts et Métiers de Laval. On a l'impression qu'on est vraiment dans l'atelier de Léonard de Vinci. Et le plus impressionnant, c'est le miroir qui est installé dans cette pièce où on peut se voir en train d'incarner Léonard de Vinci. Et grâce aux manettes, qui sont en fait les contrôleurs, on peut voir ses mains quand on incarne Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il a une longue barbe, il a un chapeau. On voit cette barbe si on baisse la tête avec le casque de réalité virtuelle. Et puis ensuite, on peut prendre en main Léonard de Vinci pour faire les activités qui sont proposées dans le cadre de cette étude.
La première partie va bientôt commencer. Elle consiste à donner à l'oral pendant 2 minutes un maximum d'utilisation inhabituelle et originale du globe terrestre qui se trouve sur le bureau.
Donc ce qu'on demande ensuite aux participants, c'est de procéder à la première tâche qui consiste pour nous à évaluer la capacité en divergence, donc à produire un ensemble de solutions. Donc pour ça, on utilise un test standardisé qu'on a reproduit dans l'environnement virtuel où on doit détourner l'usage habituel d'un objet du quotidien, ici le globe terrestre. Et donc le participant a 2 minutes pour nous proposer un maximum d'idées à l'oral qui sont, elles, toutes enregistrées.
Êtes-vous prêt ?
On est prêt. Avec les manettes, on arrive à se saisir du globe. C'est assez incroyable parce qu'on voit les mains de Léonard de Vinci qui sont comme si c'était nos mains à nous. Ensuite, on le prend et on peut le mettre où on veut dans l'espace et en donner des usages inhabituels. Par exemple, l'utiliser pour faire une ampoule de lampe qu'on pourrait mettre au plafond. C'est pas très contemporain de Léonard de Vinci, mais...
La deuxième partie va commencer.
Donc là, dans l'atelier de Léonard de Vinci, je me dirige vers le tableau en bois.
Elle consiste à trouver le mot en lien avec les groupes de 3 mots qui s'afficheront sur le tableau.
C'est écrit poste, programme, chaîne. Moi, je mettrais radio, parce que ça marche avec poste radio, programme radio, chaîne radio. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors ici, la réponse était télévision ou TV. Effectivement, c'est pour le poste de télévision, le programme de la télévision et la chaîne de la télé.
Un outil de dessin est apparu devant vous. Utilisez-le pour dessiner dans l'environnement.
À l'issue de cette tâche, les participants, on leur propose une troisième tâche, une dernière tâche en fait, qui va faire appel, encore une fois, davantage aux capacités de divergence, mais cette fois on utilise la réalité virtuelle pour pouvoir dessiner dans l'espace des esquisses en fait, qui permettent de traduire un concept. Donc là, on va leur demander d'imaginer des usages alternatifs d'un objet, cette fois-ci une ombrelle. Et l'objectif pour le participant, c'est de venir créer une esquisse autour de cette ombrelle dans l'espace 3D pour pouvoir imaginer, encore une fois, des usages alternatifs.
Donc là, grâce à la manette, je vais me saisir de l'ombrelle qui est posée contre l'atelier de Léonard de Vinci, toujours avec, en incarnant Léonard de Vinci et donc avec sa main. L'ombrelle se déploie, elle reste en lévitation au milieu de la pièce et avec un pinceau, je dois dessiner autour de cette ombrelle un objet. Le test est terminé, on a fini de faire les trois parties de l'expérience. Donc me voilà de retour entre les quatre murs blancs de la salle d'expérimentation, terminé l'atelier de Léonard de Vinci. Cette expérience, normalement, elle est censée nous rendre plus créatifs. Moi, j'ai pas l'impression d'être plus créatif. Est-ce que c'est normal ?
Alors oui, c'est parfaitement normal, hein, parce que les effets de ce genre d'induction, en fait, à la fois comportementale et cognitive, ce sont des effets subconscients, ça échappe à la perception des participants. C'est des choses qu'on mesure statistiquement en comparant les résultats des différents groupes. Et puis il faut se rappeler que dans cette étude, les participants ne testent qu'une seule des conditions, donc ils n'ont pas de point de comparaison. Pour eux, il est impossible de déterminer à cette étape si ça a eu un impact sur leur créativité. Et pour nous aussi, d'ailleurs, en fait, il n'y a que post-analyse statistique qu'on est capable de dire que nos conditions ont eu un effet. Mais encore une fois, un effet qui est subconscient. Et ce qui est très important de noter ici, c'est qu'on ne va pas faire en sorte que nos participants deviennent des génies créatifs. C'est simplement qu'ils vont pouvoir se mobiliser au meilleur de leurs compétences intrinsèques, parce qu'en fait, la convocation des stéréotypes qu'ils associent au personnage va les inviter à se conditionner dans une situation où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, du coup, grâce à ça, on va observer, nous, dans les résultats de l'étude, des différences significatives entre les résultats du groupe qui a incarné Léonard de Vinci et du groupe qui a incarné la condition de contrôle.
Vous écoutez Autour de la question, Caroline Nachowski.
Anatole Écuyer, j'imagine que vous voulez réagir à cet excellent reportage de Stéphane Duguay avec votre confrère Geoffrey Goris de l'Institut des Arts et Métiers de Laval. Donc c'est comme ça qu'on teste cet effet Proteus, c'est ça? Ou ça c'est l'effet Léonard de Vinci?
Oui, c'est ça, c'est... super reportage, parce qu'on y était. Ouais, hein. Moi, j'étais immergé dans la scène. Alors, en plus, je connais un petit peu l'application. Donc, je me replongeais dans cette scène en immersion grâce à Stéphane. Il faut essayer, parce que c'est vrai que pour se rendre compte de ces effets puissants, il faut mettre un casque, essayer. Et souvent, il y a un effet de surprise et très impressionnant. Oui, alors l'effet Proteus, qui est au cœur de cette étude-là, c'est un effet qui commence à être bien documenté et qui, en gros, un effet de stéréotype qu'on peut observer dans d'autres contextes, mais qui s'exprime très très bien en réalité virtuelle. C'est cette observation que l'avatar qui vous représente, son apparence, ce qu'il véhicule, les stéréotypes associés à cet avatar vont finir par vous influencer et vont vous
par mimétisme, modifier votre... on va un peu devenir ce qu'il est, enfin ce qu'il représente pour nous.
Exactement. Par mimétisme, on va se mettre à agir, à se comporter, voire à s'identifier à ces stéréotypes véhiculés par cet avatar. Et donc là, en l'occurrence, on s'incarne dans un génie créatif et il se trouve que lorsqu'on vous demande de produire des idées, eh bien, dans cette étude, on a nous-mêmes été stupéfaits par le résultat, on était vraiment bluffés par le résultat. Vous allez produire 50% d'idées en plus par le simple fait d'être incarné dans Léonard de Vinci et non pas dans un avatar qui vous ressemble et qui est fidèle à votre apparence.
C'est très étonnant, ça, quand même. Est-ce que ça fait aussi beaucoup réfléchir, Rebecca, sur cette question de l'incarnation ? Donc, mais alors, si on s'incarne dans un génie très malfaisant, c'est pas bon non plus. Enfin, je veux dire, ça pose des questions, on y reviendra, éthiques énormes aussi. Anatole ou Rebecca?
Non, je n'ai pas forcément d'éléments là-dessus. C'est qu'on ne creuse pas beaucoup la question des effets néfastes encore en expérience, parce que c'est compliqué à étudier, justement pour des raisons éthiques. Induire volontairement des effets négatifs sur des participants, ce n'est pas facile, mais c'est évidemment des questions vraiment pertinentes.
Anatole?
Et oui, et pour rebondir sur ce que tu dis très justement là, sur le fait qu'on ne peut pas le faire dans un cadre scientifique, de proposer une recherche qui risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de nos participants, c'est bien normal. Là, ce qui est intéressant dans cette étude sur Vinci, c'est qu'on n'en a pas parlé dans ce reportage, mais sur la deuxième tâche, où il faut produire enfin trouver la radio. Alors il s'est trompé, Stéphane, il a dit la radio, la télévision, il était un petit peu biaisé.
Mais, il a dit radio, mais poste, pour nous ça marche très bien.
C'était son biais intrinsèque, là, il n'est quand même pas sorti complètement de son personnage. mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que sur cette tâche, on a observé un effet paradoxal, et ce qui est très intéressant, c'est que là, pour cette tâche-là, le fait d'être dans Léonard de Vinci diminue nos performances par rapport au fait de rester dans notre peau virtuelle à nous.
C'est ça, parce qu'en fait, on se représente. Il y a quelques siècles, quand il n'y avait pas de télé ou de... C'est un peu ça, l'idée. Alors, c'est qu'on s'identifie vraiment au personnage dans lequel on s'incarne, à notre avatar.
On n'a pas vraiment d'explication, mais ce qu'on observe, c'est que ce sont deux dimensions différentes de la créativité. L'une est appelée convergente, l'autre divergente. Ce ne sont pas exactement les mêmes processus de créativité. Dans un cas, en mode brainstorming, ça va très bien marcher, l'avatarisation dans Vinci. Dans l'autre cas, où il faut plutôt trouver des problèmes des solutions à des problèmes concrets, là, ça va moins bien marcher. Alors, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs explications pour ça. Et il faudra avoir un petit peu de temps pour les expliquer. Mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est que attention à ne pas jouer les apprentis sorciers avec ces outils-là. Parce que à vouloir peut-être provoquer un peu plus de créativité, vous pouvez obtenir l'effet inverse si vous ne savez pas très bien ce que vous faites et ce que vous souhaitez viser comme amélioration.
De la puissance de ces outils et de ces avatars. Et d'ailleurs, Rebecca Fribourg, je reviens là sur votre parcours à vous, parce que vous n'êtes pas arrivée à cette recherche sur les avatars et l'incarnation par les jeux vidéo, comme on pourrait le croire, ou par le cinéma. Vous, c'est le côté créatif et la créativité qui vous a intéressée dans cette recherche, en fait.
Oui, en effet, j'étais pas du tout dans le côté jeux vidéo. Pour moi, l'informatique, c'était pour les geeks, comme on entend parfois. Et ça ne me parlait pas du tout, mais j'ai eu la chance d'assister à une conférence d'art numérique pendant mes études, avant même d'avoir un pied dans l'informatique. Et j'ai compris que l'informatique, c'était la création, que la réalité virtuelle encore plus. Ça permettait de créer des expériences qui peuvent toucher à plein de domaines différents, que c'était vraiment très vaste. Et c'est par là que
le code permet de créer. Hein,
exactement.
C'est ça, hein. Et justement, côté création, je me retourne vers vous, Anatole, parce que on n'a pas tellement parlé des applications, mais il y a un champ, le domaine de la santé, où c'est absolument énorme. Il pourrait y avoir le domaine de l'éducation de la rééducation. Expliquez-nous ce que c'est que ce projet Verare, c'est ça, dans lequel des patients sortent du coma, enfin, arrivent à se rééduquer bien mieux grâce à un avatar, bien plus rapidement, c'est ça?
Oui, c'est vrai que nous, depuis quelques années, on a souhaité opérer un virage dans nos recherches pour vraiment promouvoir des applications de ces technologies immersives, des métavers et des avatars dans des domaines où on pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée sociétale. Et donc, évidemment, la santé fait partie de ces domaines-là, comme d'autres, comme la culture, comme l'éducation, comme la formation. Et donc, on a vraiment décidé d'investir fortement sur ce sujet. Et je vais prendre un projet emblématique, mais il y en a d'autres dans l'équipe. Rebecca est également impliquée sur d'autres projets similaires ou avec des visées similaires. Le projet Verare, qui est né de la crise Covid, où on souhaitait proposer des outils basés sur les technologies de réalité virtuelle pour les patients qui, en réanimation, à l'époque surtout, les services étaient complètement saturés et on manquait de moyens pour aider et assister ces patients qui se réveillent après le coma, où ils ont été plongés pendant parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. Mmh. Quand ils se réveillent du coma, ils sont dans un état extrême de fragilité. Ils sont incapables souvent de s'alimenter tout seuls ou de se déplacer ou de simplement marcher. Et donc l'objectif, c'est de leur donner des outils pour récupérer la marche plus rapidement. Et il y a quelques outils qui sont proposés en réanimation, mais on se disait qu'on pouvait sans doute utiliser la réalité virtuelle pour compléter ce qui existait. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'activités à disposition. Et donc là, l'idée, c'était juste après le réveil. Donc c'est des gens qui, pendant deux semaines, étaient dans le coma. Mmh. Ils se réveillent et tout de suite, dès qu'ils se réveillent, on leur met un casque de réalité virtuelle sur la tête.
Ah oui.
Quelques heures après le réveil. Ils mettent le casque de réalité virtuelle et ils se retrouvent alors qu'ils sont dans un lit d'hôpital, allongés, incapables de bouger, connectés à plein de machines qui font du bruit, etc. Ils se retrouvent à l'extérieur, dans une forêt, sur une plage, dans un corps virtuel, dans un avatar qui leur ressemble assez fidèlement. Et puis cet avatar va se lever, alors qu'eux sont allongés, et il va se mettre à marcher. Et ils vont se voir en train de marcher pendant 9 minutes.
Comme dans un rêve, au fond, un petit peu. Hein.
Voilà, ils vont vivre une expérience de réalité virtuelle qui les remet en marche. Et ils se voient comme ça 10 jours de suite, 9 minutes par jour. On ne peut pas faire beaucoup plus parce qu'ils sont très fatigables.
Bien sûr.
Et notre espoir, c'est qu'en faisant ça, on va pouvoir réactiver les circuits de la locomotion. On va pouvoir démarrer de manière plus précoce la rééducation et ainsi gagner des jours de récupération de marche par rapport aux outils existants.
C'est formidable et ça montre aussi, parce qu'effectivement, on sait que quand on se représente quelque chose dans notre cerveau, c'est un peu comme si on le faisait. Donc c'est un peu ça aussi sur lequel vous jouez. C'est-à-dire que ça permet aussi, c'est par le fonctionnement de notre cerveau que vous arrivez à faire ces avatars et inversement, à avoir un autre regard sur le fonctionnement de notre cerveau.
Oui, là c'est vrai qu'on a plusieurs leviers. Là. On va utiliser à la fois ces phénomènes d'incarnation virtuelle dont parlait Rebecca au début, qui sont très puissants. On va vraiment croire à ce corps. On va utiliser des techniques aussi d'observation d'action. Donc là, on se voit en train de faire et on va combiner ça avec de l'imagination d'action. On va aussi leur demander d'imaginer qu'ils sont vraiment en train de le faire. Donc on met à profit plusieurs leviers, comme ça on utilise plusieurs leviers pour espérer gagner en rééducation. L'étude clinique est en cours, donc on n'a pas les résultats, mais on est optimiste et on espère que effectivement ces technologies vont permettre de regagner plus vite de la récupération.
Application extraordinaire, et là effectivement on est bien loin des jeux vidéo, et je veux bien revenir aussi par exemple sur votre chien tout à l'heure, avatar chien, donc essayer de s'imaginer dans un chien, parce que derrière il y a évidemment la question du cinéma, c'est pour des représentations, pour des acteurs, mais pas seulement. Vous avez aussi derrière la tête, si j'ose dire, Rebecca Fribourg, d'autres objectifs, d'autres buts.
Oui, en fait, cette étude, comme beaucoup d'autres, s'intéresse beaucoup à la notion d'empathie et de prise de perspective. C'est un petit peu différent de l'effet Proteus. L'idée de prise de perspective, c'est vraiment se mettre dans les baskets,
dans la peau de
quelqu'un d'autre pour faire ressentir donc des expériences précises. Et donc, il y a pas mal d'études, notamment à Stanford, aux USA, qui ont débuté à faire ces travaux en mettant des personnes dans des espèces en voie de disparition et en leur donnant la tâche, par exemple, d'essayer de se nourrir, de survivre dans un environnement menaçant pour sensibiliser au réchauffement climatique, par exemple. Nous, dans le cas du chien, on a eu pris le contexte d'un chenil et pour voir si l'empathie envers la cause animale, envers les chiens menacés dans les chenils, si le fait d'être incarné dans ce chien augmentait l'empathie. C'est aussi une mesure. Plus il y a d'incarnation, plus il y a potentiellement de l'empathie envers cette cause. Mais en tout cas, l'incarnation d'animaux en réalité virtuelle aujourd'hui est aussi utilisée dans ce contexte-là, pour faire augmenter l'empathie et la sensibilisation.
Se mettre vraiment dans la peau de l'autre, quel qu'il soit, quoi.
Exactement.
Finalement. Autour de la question jusqu'où nous entraînerons nos avatars, allez, on continue de passer de l'autre côté du miroir. Cette fois-ci, c'est avec le groupe Velvet Underground sur RFI. I'll be your mirror.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Nick Nico and the Velvet Underground sur RFI, I'll Be Your Mirror de circonstances. Autour de la question des avatars sur lesquels travaillent nos invités, Anatole Écuyer de l'INRIA, spécialiste des mondes virtuels, Rebecca Fribourg de l'École Centrale de Nantes qui travaille précisément sur l'incarnation dans un avatar pour le meilleur, la rééducation, la santé, la maîtrise de la violence, on n'en a pas parlé mais c'est vrai que ça peut marcher aussi dans l'empathie, la création cinématographique, musicale, artistique, la vidéo, les jeux vidéo. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les avatars, il y a aussi tout de même quelques questions éthiques qu'on a commencé à soulever et sur lesquelles le Comité consultatif national d'éthique va bientôt donner son avis. Anatole Écuyer, vous en faites partie hein, pour le numérique. Ça pose de nombreuses questions éthiques. Cette question des avatars, enfin, en tout cas, il faut se les poser. Vous avez commencé à le dire vous-même. On ne va pas se mettre dans n'importe quelle main ni jouer n'importe comment avec nos avatars.
Tout à fait. Alors, je ne fais pas partie du comité là, en ce moment qui statue là-dessus, mais j'ai été auditionné par ce comité justement sur la question des avatars. Et donc, c'était un des sujets d'intérêt, voire d'inquiétude autour des risques associés aux technologies immersives et au futur métavers.
On va attendre leur avis, mais je vous propose tout de suite d'écouter la réaction d'un célèbre psychiatre et psychothérapeute qui était récemment notre invité, Christophe André.
C'est passionnant, c'est effrayant aussi un peu pour les gens qui n'y connaissent rien, cette question des avatars, la réalité virtuelle qui peut rentrer comme ça et façonner notre cerveau, ou en tout cas nous aider à le faire évoluer dans telle ou telle direction, parce que évidemment qu'en milieu naturel, sans réalité virtuelle, cette question des modèles, elle est très importante pour les humains. On se construit beaucoup par imitation de modèles, par apprentissage social, comment fonctionnent nos parents, comment fonctionnent nos enseignants, nos copains, nos copines, etc. Et au fond, cette question de savoir si un avatar peut peser aussi lourd qu'un être humain dans la construction, l'évolution d'un autre être humain, ça c'est vraiment une question passionnante.
Passionnant et questionnant, Anatole Écuyer, Rebecca Fribourg, qui veut réagir à ces propos du psychiatre Christophe André.
Moi je peux réagir, mais je partage complètement hein, l'avis de Christophe André sur... En tout cas, sur ce que ça soulève comme question et puis jusqu'où ça va effectivement dans la construction de son développement, de son identité. C'est vrai qu'on va pouvoir... On a quand même insisté tout à l'heure sur des applications positives, prometteuses, avec une forte valeur sociale à ajouter. Et je pense qu'on va continuer, nous devrons, pour promouvoir ces applications-là.
Vous devez œuvrer pour les promouvoir, c'est-à-dire qu'on va dans cette direction-là.
En tout cas, nous, on va pousser dans ces directions-là. Mais ce qui se passe en ce moment et dans cette période économique, c'est ce qui se joue, c'est la bascule vers le grand public de ces technologies. Mmh. Pendant assez longtemps, elles étaient réservées à des usages professionnels, voire de niche. Et donc là, les usages et les règles étaient parfaitement contrôlés. Là, maintenant, à partir du moment où ça bascule vers le grand public, ça peut nous échapper. En tout cas, ça pose la question des limites qu'il faut poser dans ces usages-là.
En amont, dès l'élaboration, enfin jusqu'où on peut aller, quels effets ça peut avoir. Vous travaillez là-dessus aussi, Rebecca.
Oui. Bah alors, on l'étudie, encore une fois, on ne l'étudie pas spécialement, mais en tout cas, on en discute. C'est vraiment hyper important que les chercheurs, donc nous, chercheurs spécialistes de ce domaine, qu'on se pose ces questions-là d'impact potentiel, parce qu'en effet, c'est déjà quelque chose qui nous échappe, en fait, notamment avec le coup de projecteur sur le métavers, comme on a parlé Anatole. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'utilisations, donc de choses qui existent déjà, de chat en réalité virtuelle avec beaucoup d'utilisateurs, et on se rend compte qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur tous les impacts que ça peut avoir. Moi, j'ai toujours en tête ce cas d'une femme qui avait eu l'impression d'avoir été agressée sexuellement à travers son avatar. Mmh. Et on s'est rendu compte, je pense, par ce cas, qui était d'ailleurs peut-être pas unique, qu'on manquait terriblement d'éléments à la fois juridiques, éthiques, de comment gérer ces situations.
Parce que ça nous touche vraiment, ça nous concerne vraiment quand on s'attaque à notre avatar. Alors, sur quoi travaillez-vous ? On va arriver bientôt à la fin de cette émission. Donc, quand même, quels sont vos projets justement dans autour de ces avatars, de cette réalité virtuelle? Jusqu'où allez-vous nous entraîner, Rebecca?
Alors j'en ai bon, plusieurs, une multitude encore une fois. On a la chance d'avoir un domaine très très varié. Mm-hmm. Ça permet d'aller explorer plein de choses hyper intéressantes. Il y en a en collaboration avec Anatole. Je vais peut-être le laisser en parler. Alors, peut-être qu'il voudra parler d'autres choses aussi. J'en ai peut-être deux que je voudrais évoquer. Mm-hmm. J'en ai un premier qui n'est pas encore beaucoup avancé, mais qui est sur la notion d'accessibilité. C'en est un petit. J'aimerais beaucoup creuser la question d'accessibilité pour l'utilisation des avatars en réalité virtuelle. Donc donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas peut-être qui ont des déficiences moteurs de contrôler un avatar, d'être présenté par un avatar en réalité virtuelle, potentiellement dans des applications donc multi-utilisateurs, ce genre de choses. Il y a pas énormément de choses encore dans ce domaine, donc j'aimerais beaucoup explorer ça. Et j'ai un autre projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui alors il s'appelle PACAP. PACAP, c'est un acronyme donc pour explorer la perception des avatars en environnement urbain virtuel. Donc, c'est déjà assez ancien, l'utilisation des environnements urbains virtuels en maquettes. On imagine bien les maquettes 3D pour la conception d'environnements urbains.
Sur l'architecture.
Exactement, oui. Et alors, plus récemment, donc, ça a été aussi donc, utilisé en réalité virtuelle, donc s'immerger dans le monde urbain pour se visualiser dans ces projets futurs. Là, l'idée de ce projet, c'est de voir comment sa propre représentation va pouvoir influencer la manière dont on perçoit cet environnement urbain, parce que jusqu'à présent, c'était peu présent, on n'était pas représenté, ou alors les autres n'étaient pas représentés. Donc on a envie d'explorer cette question. Par exemple, est-ce qu'on va percevoir une ruelle sombre de la même manière si on est incarné dans un corps de femme ou un corps d'homme?
Ah oui,
ce genre de décision.
Ça va décidément très très loin. Hein, jusque Anatole Écuyer, c'est vous qui allez conclure avec votre je sais pas, un de vos multiples projets.
Oui, alors donc c'est celui dont qu'évoquait Rebecca, qui va encore plus loin. Donc là, c'est comment maintenant l'avatarisation va arriver dans notre monde réel. Donc ça va être comment est-ce qu'on va se déguiser numériquement avec des avatars, mais dans le réel cette fois-ci. Comment est-ce que les avatars vont maintenant pouvoir peupler le monde réel en
dans
réalité
dans notre studio, là,
augmentée.
Il pourrait y avoir quelques petits
exemple,
avatars.
Voilà, dans votre studio, vous
me
pourriez...
Ne dites pas que Thibaut Badiou, derrière la vitre, c'est son avatar.
Vous pourriez vous transformer à votre tour dans Léonard de Vinci pour animer cette émission et peut-être être encore plus créative. Et donc là, l'idée, c'est comment est-ce que cette avatarisation peut être maintenant portée vers la réalité augmentée.
Bon, si c'est vous qui les concevez, tous les deux, ces avatars, je suis partante. Hein. Sinon, je me méfie un peu quand même. Merci infiniment à tous les deux, Rebecca Fribourg, Anatole Écuyer, d'être venus. Alors, Rebecca, vous êtes venue de Nantes, Anatole de Rennes, pour être en direct avec nous. Ça nous fait réfléchir, ça ne fait que commencer, ça nous réjouit aussi et ça nous interroge. Je vous renvoie, chers amis auditrices et auditeurs, sur votre ouvrage, Anatole Écuyer, « Comprendre le métavers, les technologies immersives et leurs effets sur votre cerveau » aux éditions Alpha Science. Et vous revenez quand vous voulez, en chair et en os, ne m'envoyez pas votre avatar pour continuer. Merci.
C'est promis.
Merci.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain autour de notre table ronde mensuelle avec mes confrères et consœurs de la presse scientifique. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, il y aura, vous le savez, de nombreux magazines à gagner. C'est de la réalité, pas virtuelle du tout. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Nachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité et votre interaction. Activité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.